Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Tous les ans, 500 milliards de dollars sont distribués par les États à leurs agriculteurs. Chine, États-Unis, Union européenne ne lésinent pas sur ce qu'on appelle les subventions et les pays moins riches s'en plaignent souvent, demandent leur suppression et s'attirent parfois le genre de réponse que le président français Jacques Chirac fit à son homologue brésilien Lula. C'était le 16 juillet 2005 à l'Élysée.
Je comprends parfaitement la position du président Lula et je sais qu'il comprend la position de l'Europe. Je voudrais simplement dire que l'Europe a déjà décidé, il y a un an maintenant, la suppression totale des subventions agricoles à l'exportation. C'est ce que demande le Brésil et d'autres. Mais l'Europe a indiqué qu'elle ne mettrait cette décision en œuvre que dans la mesure où les autres grands exportateurs, ça veut dire les États-Unis, prendraient la même décision.
Alors 10 ans après cette déclaration, où en est-on aujourd'hui? Les subventions sont-elles un facteur d'équilibre ou de déséquilibre de la production agricole mondiale? Contribuent-elles à réduire la faim dans le monde? Avantagent-elles les pays riches au détriment des pays pauvres? Peut-on, doit-on se passer de ces subventions? Telles sont les questions que je vais poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Sylvie Brunel.
Bonjour Jean-Pierre Bouris.
Sylvie Brunel, au début des années 2000, vous avez présidé l'ONG Action contre la faim, Action internationale contre la faim maintenant. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont le dernier s'intitule « L'Afrique est-elle si bien partie ?» avec un point d'interrogation. Et ce livre est publié aux éditions Sciences Humaines. Mais surtout, surtout, vous êtes géographe, professeur à l'Université de la Sorbonne à Paris. Alors Sylvie Brunel, est-ce que les subventions agricoles ont un impact sur la géographie de notre planète ?
Les subventions agricoles sont indispensables. La production alimentaire mondiale se répartit en fonction des sommes que les États investissent dans l'agriculture. Donc nous, on peut toujours les montrer du doigt, mais à l'heure où l'agriculture européenne et notamment l'agriculture française est en danger, les remettre en question risquerait de tuer notre agriculture.
Donc pas de subvention, pas d'agriculture. Et ça a un impact sur la géographie?
Oui, parce que ce que vous produisez dans l'agriculture, ça a une très faible valeur unitaire. Donc, soit vous êtes livré aux mécanismes du marché qui produisent des prix extrêmement volatiles et avec des fluctuations qui sont très préjudiciables pour les exploitations agricoles, soit vous avez des mécanismes, un certain nombre de mécanismes, parmi lesquels les soutiens, puisqu'on parle de subventions, mais ce sont des soutiens, et ces soutiens agricoles sont fondamentaux. Voilà pourquoi, d'ailleurs, tous les pays qui ont décidé de ne pas sacrifier leur agriculture, considèrent qu'il est de leur devoir de protéger leurs agriculteurs.
Avec nous également dans ce studio, Didier Nédélec, bonjour.
Bonjour.
Didier Nédélec, vous avez travaillé chez Cargill, l'un des grands géants mondiaux du négoce agricole. Vous y avez passé 20 ans. Puis on vous retrouve chez Invivo, le premier groupe coopératif agricole français. Et vous êtes maintenant, entre autres, conseiller du président d'offres et demandes agricoles, le leader européen de l'analyse de marché agricole. Alors, Didier Nédélec, est-ce qu'on porte le même regard sur les subventions agricole quand on est employé par un géant américain du négoce, Cargill, comme vous l'avez été pendant longtemps, et quand on est au service d'une grande coopérative agricole comme Invivo, ou au service des agriculteurs français?
Je crois que fondamentalement, on est au service des agriculteurs, qu'ils soient français ou qu'ils soient d'autres régions du monde, et les subventions agricoles en tant que telles sont un des moyens pour aider au développement de l'agriculture. Je rappelais juste un chiffre, tous les ans, ce monde qui va mine de rien plutôt mieux, alors pas très bien dans notre zone, mais plutôt mieux au niveau mondial, a besoin de 30 millions de tonnes de production agricole supplémentaire chaque année, juste pour nourrir l'augmentation de notre population. 30 millions de tonnes, c'est l'équivalent de la récolte française de blé, ça se trouve pas comme ça, et donc on doit avoir des politiques publiques pour créer les conditions de développement de l'agriculture. Les subventions sont un des moyens, il y en a d'autres, et il y a surtout des choses qui viennent avant les subventions, comme des environnements stables, pour que des agriculteurs puissent tout bêtement investir tranquillement et à long terme dans leurs terres pour produire plus.
Alors au cours de cette émission, nous irons à Bruxelles avec un dossier de notre correspondant Grégoire Lory, au Caire avec un reportage de François Umferketaji. Nous entendrons une interview de Jacqueline Sultan, la ministre guinéenne de l'Agriculture, et aussi Youssouf Djimé Sidibé, le secrétaire permanent de l'Association des producteurs de coton africain. l'une des zones où la politique de subvention était la plus pratiquée, vous me corrigerez si je me trompe, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Europe. D'abord les États, puisqu'on a appelé le marché commun, puis la communauté, puis l'Union européenne. Alors on va pas refaire toute l'histoire, mais Sylvie Brunel, est-ce que ces subventions ont atteint leur but ?
Totalement, elles ont même dépassé leur but, puisque à partir du moment où le pacte entre la France, l'Europe et les agriculteurs est passé avec la création de la politique agricole commune qui est mise en œuvre en 1962, l'Europe qui était extrêmement dépendante, qui souffrait de la faim après la Seconde Guerre mondiale et qui va connaître une véritable mutation considérable de ces campagnes, va être en situation de surproduction dès le début des années 80, ce qui va d'ailleurs obliger la politique agricole commune à évoluer progressivement de subventions à des aides directes aux revenus et puis avec des conditionnalités de plus en plus importantes. Mais il faut que vous sachiez, Jean-Pierre Boris, que toutes les agricultures fortes du monde, on parle toujours de l'Europe, mais les États-Unis, le Japon, l'Inde, soutiennent massivement leur agriculture. Un agriculteur seul est un agriculteur spolié. La compétition internationale fait qu'on ne peut pas mettre dans la même arène le petit producteur africain qui a une exploitation familiale ou le grand producteur qui a dans le Middle West ou dans en Argentine une exploitation avec des conditions tout à fait différentes. Et donc, il faut de l'interventionnisme dans l'agriculture. Les pays africains souffrent de
ça. On y reviendra sur les pays africains dans la deuxième partie de l'émission. Didier Nedelec, vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Les subventions ont sauvé l'agriculture européenne, me dit en quelque sorte Sylvie Brunel ?
Je le dirais pas comme ça. Et encore une fois, les subventions, c'est un moyen, ce n'est pas le moyen de base. Le moyen de base pour développer une agriculture, c'est créer les conditions pour que les agriculteurs puissent investir dans leurs terres. Toutes les terres sont bonnes. Tous les agriculteurs sont compétents, à la base. Après, il faut leur donner des conditions et quelque chose que les gens ne comprennent pas. Vous construisez une usine, l'usine ouvre, vous produisez immédiatement, si vous avez bien fait votre étude de marché et votre business plan, vous avez une rentabilité qui est là et qui est plutôt certaine. En agriculture, vous allez investir déjà sur des périodes beaucoup plus longues. Travailler une terre, faire que cette terre devienne productive, c'est un cycle de 4, 5 ans, 10 ans de travail pour un agriculteur. Investir dans des moyens de production agricole, un tracteur, une charrue, c'est encore une fois un outil qui va servir pendant 10, 15, 20 ans. Avec en face de une production qui est impactée par un facteur qui s'appelle la météo. Donc vous n'êtes jamais dans une certitude de résultat. L'agriculteur en tant que tel doit être déjà accompagné dans un premier temps pour être dans un environnement stable d'un point de vue légal. Sa terre doit lui appartenir pour qu'il puisse emprunter, pour qu'il puisse investir et lui donner une visibilité à long terme pour que ses investissements soient rentables pour lui. Vous prenez la politique américaine, alors on peut passer beaucoup de temps à la réexpliquer, il y a eu tout bêtement un contrat passé dans les années 30 aux États-Unis où on a dit aux agriculteurs américains, allez-y, investissez, on se débrouillera pour que votre entreprise soit rentable. Et depuis, quoi qu'on dise, le pacte n'a pas changé. Au niveau de l'agriculteur européen, le même pacte a été passé. On oublie de dire tout le temps que la France était déficitaire en produits alimentaires jusqu'au milieu des années 70. Et cela depuis 5 siècles. On oublie tout le temps de dire que la France ne nourrissait pas sa population jusqu'au milieu des années 70. Alors après, les agriculteurs ont été trop bons.
Ils ont trop produit ?
C'est pas qu'ils ont trop produit, c'est qu'ils ont été trop bons dans leur amélioration. Ce sont des gens qui ont innové, qui ont été très compétents, qui se sont très bien formés et qui ont trop bien réussi.
Sylvie Brunel, vous êtes d'accord ? Trop compétents ?
Mais je suis entièrement d'accord. En fait, on a demandé aux agriculteurs français de produire pour à la fois permettre à nos consommateurs d'avoir une alimentation peu chère et de qualité en toute saison, ça a parfaitement marché. Aujourd'hui, imaginez que la France, avec 5% de la superficie agricole utile mondiale, c'est-à-dire un pourcentage dérisoire, est une des premières puissances agricoles au monde et qu'on nous achète partout notre alimentation qui est considérée comme de qualité. Maintenant, les autres pays du Sud, du Sud notamment, la guerre économique pour eux est beaucoup plus difficile, mais nous ne pouvons pas porter cette responsabilité. La responsabilité vient aussi de chacun des gouvernements. Il appartient à chacun régional de soutenir et de sauver ses agriculteurs.
Il y a une zone en Europe qui bénéficie depuis relativement peu de temps de la politique agricole commune. Ce sont les agricultures d'Europe orientale, la roumaine ou la polonaise, qui depuis 10 ans, depuis leur entrée dans l'Union européenne, tentent de rattraper le retard en matière de productivité et de production. Écoutez le dossier Éco d'ici, Éco d'ailleurs de Grégoire Lory à Bruxelles.
En près de 10 ans, les nouveaux États membres de l'Union européenne ont touché plus de 68 milliards d'euros d'aide à travers la PAC, la politique agricole commune. Une approche qui a fonctionné pour l'ancien commissaire chargé de l'agriculture, le roumain Dacian Cioloș.
pratiquement sans exception depuis l'adhésion de ces États membres à l'Union européenne. L'agriculture s'est développée tant du point de vue du niveau de productivité, mais aussi ces agricultures se sont pas mal diversifiées. Bon, il y a eu bien sûr un processus de restructuration qui est encore en cours. Et à mon avis, l'existence de la politique agricole commune a permis de canaliser d'une certaine manière ce processus de réorganisation des agricultures de ces États membres.
Ces subventions européennes ont permis au secteur agricole de se restructurer. Pour ce faire, les nouveaux pays se sont appuyés sur deux piliers. Luc Vernet, cofondateur du centre de réflexion Farm Europe.
La politique agricole commune dans ces pays-là a servi deux choses, principalement de soutenir le revenu des agriculteurs de ces pays-là, qui a fortement évolué, mais qui reste bas par rapport aux revenus dans ces sociétés-là. Et le deuxième aspect, c'est investir, moderniser. Donc c'est passer pour certaines toutes petites structures d'un cheval à un tracteur, développer l'utilisation de techniques modernes agricoles.
Ces pays sont donc passés d'une agriculture de semi-subsistance à un secteur prêt à répondre au marché. Grâce à la PAC, cette restructuration a pu se faire sans casse sociale dans les exploitations. Arnaud Petit, directeur au COPACOGECA, l'Association européenne des agriculteurs et des coopératives agricoles.
On n'a pas, dans les nouveaux États membres, un phénomène de chute drastique. Tout d'abord parce qu'il y avait un certain nombre d'exploitations de semi-subsistance qui sont restées en semi-subsistance. La Commission estime environ à 5 millions d'exploitations qui restent sous un axe principal semi-subsistance. Et ensuite, je dirais qu'on ne peut pas passer directement d'une petite structure à une grande structure. Donc on n'a pas une évolution drastique majeure. Les zones, que ce soit en Pologne, en République tchèque, voire en Roumanie, où aujourd'hui on a des grandes structures, historiquement elles étaient déjà présentes en fait.
À des niveaux différents, ces nouveaux États membres font désormais face aux mêmes défis que leurs partenaires. C'est maintenant dans les domaines du transport et du stockage que ces pays doivent prolonger leurs efforts.
Alors c'est un reportage de Grégoire Laurie à Bruxelles, il vient de nous donner un chiffre, 68 milliards d'euros de subventions pour ces pays de l'Est européen en 10 ans. C'est suffisant, Sylvie Brunet ?
Je ne sais pas si c'est suffisant, mais on parle toujours des sommes allouées à l'agriculture, mais il faudrait comparer aux sommes allouées à la santé, à l'éducation. C'est-à-dire qu'un État qui se construit a besoin d'étayer ses secteurs essentiels pour à la fois son indépendance stratégique, sa souveraineté alimentaire. Je vais vous donner un exemple qui me marque, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur le maïs, vous savez, j'ai publié notamment une géographie amoureuse du maïs. On a vu apparaître une magnifique corn belt, une ceinture de maïs autour de la mer Noire. Et cela fait de ces pays qui ont des besoins colossaux, des pays qui peuvent envisager l'avenir avec beaucoup plus de sécurité. Tout à l'heure, nous l'avons dit, nous allons passer de 7 milliards d'hommes à 9 milliards d'hommes, ça veut dire qu'il va falloir produire en gros 1 milliard de tonnes de céréales en plus d'ici 40 ans. 1 milliard de tonnes de céréales en plus pour nourrir des classes moyennes, pour nourrir des hommes et des femmes du monde entier, pas seulement des Européens. Les grands pays qui détiennent aujourd'hui cette capacité d'exportation grâce à une politique agricole forte démissionnent, la faim flambera. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger aussi les petits paysans, hein, il ne faut pas miser que sur les grandes exploitations. Toutes les agricultures ont leur place, mais aucune agriculture ne peut vivre sans, en étant livrée aux caprices de la météo et du marché.
Digne Nedelec, est-ce que les Européens de l'Ouest ont une agriculture compétitive aujourd'hui ? Est-ce que la compétitivité, c'est le but à atteindre ?
Autant quand on revient avant les années 2000. Avant les années 2000, le monde à l'époque, et encore une fois, il faut vraiment faire très attention à l'analyse qu'on a sur le monde. Vous prenez le PIB mondial avant les années 2000, il était stagnant. On était aux alentours de zéro. Alors il y avait ce milliard de personnes dont nous faisons partie qui continuaient à se développer et qui se portaient très très bien. Maintenant, le reste du monde à l'époque, c'était pas ça. Depuis les années 2000, la croissance mondiale, bon an, mal an, et sans vraiment d'ailleurs beaucoup de changements d'une année à l'autre, a une croissance entre 3 et 3,5%. Ce qui veut dire quoi ? Parce que nous, on croit plus que la croissance est essentiellement dans les pays que l'on décrivait comme pays en voie de développement et qui, pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui, sont très largement plus loin que pays en voie de développement, mais en cours d'être développés. À l'époque, l'agriculture était dans un phénomène de surplus. Aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène où nous devons gérer la croissance. Donc, est-ce que...
croissance de...
La demande, des besoins.
30 millions de tonnes de plus par an, quand vous regardez l'évolution de la production, eh ben c'est pas si simple que ça à faire. Ce qui explique
mais
grandement...
est-ce que les subventions peuvent tout
élever? Non, mais je vous le dis, encore une fois...
Élever le niveau de vie des paysans.
Non, la subvention en tant que telle n'est pas une fin. Quand vous prenez, vous voulez développer une agriculture, la première condition, c'est que des agriculteurs possèdent leurs terres. Parce que le premier moyen de production et la meilleure façon d'avoir une vraie production, c'est que l'agriculteur ait quelque chose qu'il puisse transmettre à ses enfants, dans lequel il puisse investir pendant longtemps. Il faut un cadre légal qu'il soit cohérent et qui garantit sa propriété. Avec ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il peut investir parce qu'il sait que ses investissements, ils seront pour lui dans le futur. Deuxième chose, il peut gager sa terre pour obtenir de l'argent, pour avoir un moyen de production. Après, s'il rentre dans ce cycle d'améliorer sa production et donc de nourrir ses citoyens et les citoyens de son pays, ben, il faut quand même le protéger un petit peu contre les événements climatiques, les marchés en fin de compte. Ce n'est jamais que de la climatologie. Vous rajoutez, un agriculteur peut faire tous les investissements de protection qu'il veut. S'il a un phénomène climatique extrême, trop d'eau ou pas assez, eh ben son rendement sera pas là et son revenu sera impacté. Ce qu'on sait du réchauffement climatique aujourd'hui, par les chiffres, et sans rentrer dans un débat d'aucune sorte sur le fondement, pas le fondement, c'est que les événements climatiques graves augmentent. Un événement climatique grave, ça veut dire un impact sur l'agriculture. Quand on étudie au niveau mondial la volatilité des rendements et non pas des prix, on se rend compte qu'au niveau global mondial, ça bouge pas tant que ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Nous sommes capables au niveau mondial de produire. Maintenant, dans chaque zone géographique, cela augmente.
Qu'est-ce qui augmente ?
La volatilité des rendements, c'est-à-dire que vous allez avoir une sécheresse aux États-Unis qui sera compensée par une bonne production ailleurs dans le monde. Vous allez avoir un événement climatique majeur en Afrique du Nord, qui sera compensé par quelque chose, une autre zone dans le monde. Donc un besoin de commerce, donc des frictions dans le marché, donc de la volatilité des prix.
Mais
donc,
la volatilité des prix, Sylvie Brunel, est-ce qu'elle n'appelle pas pour la rééquilibrer des subventions ?
Face à la volatilité des prix, vous savez, on apprend en géographie ce qu'on appelle la loi de King. C'est-à-dire toute variation, même minime, de la production à la hausse ou à la baisse se traduit dans l'agriculture par une flambée des prix ou un effondrement des prix. Face à cela, il y a plusieurs possibilités. On peut stocker, hein, c'est-à-dire que le stock permet de retenir les quantités quand les marchés s'effondrent pour les lâcher quand il y a une flambée des prix. Mais on peut aussi considérer que il faut des mécanismes assurantiels. Aux États-Unis, la nouvelle loi agricole demande aux agriculteurs de prendre des contrats, des assurances, et l'État s'engage à financer une partie de ces assurances. C'est un moyen comme une autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour limiter l'insécurité alimentaire, il faut à la fois la paix, parce qu'il faut, on n'en parle pas, mais les pays les plus affamés, ce sont les pays quand même où les troubles empêchent les agriculteurs de produire, donc la paix, ce sont les prix, parce qu'aucun paysan ne va investir et produire s'il n'est pas correctement rémunéré, ça veut dire de bonnes politiques, et les bonnes politiques, c'est celles qui rémunèrent correctement le paysan, mais qui rendent la nourriture accessible aux consommateurs. Entre les deux, faut un interventionnisme. Et puis après, faut la pluie, parce que s'il n'y a pas de pluie, rien ne pousse, et si on n'a pas de pluie, il faut des puits, c'est-à-dire de l'irrigation. Et à ce moment-là, vous avez une agriculture solide, quelle que soit la région du monde. Les pays qui accusent l'extérieur, ce sont souvent des pays qui ont sacrifié leur propre agriculture.
Tout à l'heure, vous parliez du Japon, de la Chine.
Je vous parlais du Japon parce que le Japon, vous voyez, c'est une île avec des conditions naturelles extrêmement difficiles. Et pourtant, le Japon a fait de son indépendance alimentaire, de sa souveraineté alimentaire, une condition essentielle de sa croissance. Aujourd'hui, il est confronté à une crise qui est le nombre de petites exploitations peu productives, le fait qu'il importe du riz qui ne lui convient pas parce que la souveraineté alimentaire fait qu'il ne veut pas importer du riz. Vous savez, l'OMC exige que chaque pays importe une partie de son alimentation. Peu importe vos conditions initiales, pourquoi on se nourrit moins bien aujourd'hui en République démocratique du Congo qu'au Japon, alors que la République démocratique du Congo est un Eldorado? Parce que les paysans sont sacrifiés.
Est-ce qu'il faudrait des subventions en RDC? S'il y avait des subventions, ça se passerait mieux?
Vous savez, à Maputo, en 2003, les pays africains se sont engagés à consacrer 10% de leur budget à l'agriculture. Sur les 54 pays africains, il n'y en a même pas 10 qui font ça. Et si aujourd'hui la RDC décidait que ces paysans sont une priorité, d'abord ils arrêteraient de partir vers les villes et de créer ces difficultés énormes des métropoles africaines. Et puis ensuite, la RDC pourrait nourrir non seulement l'Afrique, mais le monde.
Eh bien, c'est la fin de la première partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré aux subventions agricoles. Dans la deuxième partie, nous reparlerons beaucoup de l'Afrique, mais pour l'instant, un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons subventions agricoles avec deux invités, la géographe et écrivain Sylvie Brunel et avec Didier Nedelec, conseiller du président d'ODEA, Offre et Demande Agricole, le leader européen de l'analyse de marché agricole, bien sûr. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons beaucoup parlé de l'Europe et de sa politique de soutien aux agriculteurs, en particulier les céréaliers. Autres grandes céréales, le riz. Les grands producteurs et exportateurs de riz sur la planète, ce sont les pays asiatiques. L'Afrique est la principale importatrice et cherche à réduire cette dépendance depuis longtemps déjà, ce qui pousse certains de ces pays à subventionner leurs riziculteurs quand ils le peuvent. Écoutez Jacqueline Sultan, la ministre guinéenne de l'Agriculture, au micro RFI de Gaël Lalex, interview enregistrée lors du récent Salon de l'Agriculture à Paris.
La Guinée produit environ 1 500 000 tonnes de riz net par an, ce qui n'est pas peu dire, et nous avons un gap de 200 à 300 000 tonnes importées pour pallier à ce manque à gagner. Mais nous avons la ferme intention de fermer ce gap de l'importation par des mesures importantes qui ont été prises par le gouvernement actuel depuis 4 ans. Il y a un appui massif direct aux producteurs à travers l'approvisionnement en intrants agricoles. Intrants passant par des engrais, des produits phyto, des semences de qualité et qui ont permis de voir une augmentation de la productivité, des rendements. Et nous avons bon espoir que dans les 2 à 3 années à venir, nous serons en capacité de fermer ce gap des importations en matière de production rizicole.
Les subventions agricoles, c'est un modèle classique de développement agricole que les gouvernements subventionnent ce secteur.
Nous sommes tout à fait pro-subvention dans l'état actuel de notre agriculture. On ne peut en aucun cas nous faire grief de subventionner ce petit agriculteur.
Elle prend quelle forme la subvention en Guinée ?
Sur les équipements agricoles, cette année, nous allons subventionner à hauteur de 50% pour permettre aux petits agriculteurs de se procurer un petit tracteur, un motoculteur, enfin tous ces équipements qui vont accélérer le développement, la modernisation de notre agriculture. Je vous donne un exemple. Nous avons introduit il y a quelques années les batteuses motorisées. Le battage du riz se faisait manuellement. C'est une étape extrêmement pénible et qui demande beaucoup de bras valides. Aujourd'hui, nous avons introduit la batteuse motorisée, mais elle fait fureur, comme on dirait. Elle fait tabac dans les campagnes. Ça réduit la pénibilité du travail et ça réduit également les pertes post-récolte.
Et à terme, ces politiques de subvention, est-ce que leur développement naturel, c'est de disparaître aussi ?
Ah, bien entendu, à partir du moment où vous subventionnez un producteur qui ne fait qu'un rendement d'une tonne à l'hectare, sitôt qu'il passe à 3 tonnes, voire 4 tonnes à l'hectare, il est en capacité de s'acheter et la subvention va être dégressive au fur et à mesure que les résultats escomptés en termes de productivité vont se faire voir et se consolider. Bien entendu, l'État va réduire ses subventions, c'est certain.
Et la Guinée a un calendrier en tête à ce niveau-là ?
C'est difficile de parler de calendrier lorsque l'on voit que la France et que les États-Unis et que ces pays du Nord continuent à subventionner à tout va leurs agriculteurs. Ne nous demandez pas à nous, pays émergents, d'arrêter ou de vous donner un calendrier.
C'était Jacqueline Sultan, la ministre guinéenne de l'Agriculture, au micro de Gaël Lalex, Sylvie Brunel, Didier Nedelec. Je vous voyais très attentif à
cette entrevue. Ah oui, moi j'étais très heureuse d'entendre Jacqueline Sultan expliquer très posément comment on arrivait à arracher ces agriculteurs africains qui ont souffert tellement longtemps d'une pénibilité du travail considérable malgré des efforts. Il faut penser aux efforts hein, quand vous grattez la terre avec une houe et que vous obtenez une tonne à l'hectare. Pourtant, vous êtes courageux, mais vous n'êtes pas payé en retour. Et de voir ces agricultures africaines qui ont tellement de potentialités s'engager dans un processus de modernisation pour le plus grand bénéfice de leur pays, mais aussi de leur marché intérieur, quand 2/3 de la population vit toujours directement ou indirectement de l'agriculture. Si vous arrivez à élever le pouvoir d'achat de l'agriculteur, vous vous rendez compte ce que ça veut dire sur l'émergence de l'Afrique ? Hein, ça veut dire des gens qui ne vont plus aller dans les villes où il n'y a pas d'emploi, où il y a un décrochage entre le nombre de jeunes et la possibilité d'emploi, des gens qui vont envisager l'avenir avec confiance. Et ça veut dire que chaque fois qu'un pays africain décide de miser sur son agriculture, il obtient des résultats. Donc j'étais très heureuse d'entendre Madame Sultan.
Didier Nedelec, vous voyez murmurer le mot parfait.
le mot subvention fait peur, c'est soi-disant le diable, etc. Maintenant, moi, j'ai un autre exemple à vous citer, et on va voir si c'est une subvention ou pas. La Fondation Farm, fondation française qui aide au développement, justement, en Afrique, a été contactée par un groupe de femmes maliennes. Vous voyez la situation du Mali à l'heure actuelle, qui sont des femmes d'une coopérative qui, en complément du revenu sur l'exploitation, développe la production d'échalotes. Ces dames, aujourd'hui, ont parfaitement conscience du fait que, un, elles ont le marché pour le développer, mais qu'elles n'ont pas de stockage, et donc elles sont obligées de vendre à perte au moment de la moisson, qu'elles pourraient faire mieux si elles étaient mieux formées, et qu'elles pourraient faire mieux si elles avaient accès à des semences d'échalotes de qualité. Ils ont donc contacté la Fondation Fleur pour que la Fondation les aide. D'ailleurs, si vous voulez aider cette Fondation, vous avez sur Bipando une plateforme, un projet ouvert sur ce dossier-là. Ces femmes, aujourd'hui, la Fondation a mis à leur disposition un technicien agricole qui est en train de former toutes ces femmes et leur fournit des semences de qualité. À côté de ça, on est en train de les aider à construire des stockages pour réduire leurs pertes de récolte et pouvoir vendre plus tard. Est-ce que c'est une subvention, monsieur ?
D'une certaine forme, oui. D'une certaine manière, oui.
Oui,
c'est un soutien.
Le mot subvention est utilisé à tort. Aujourd'hui, les agriculteurs ont besoin d'aide parce que leur métier est compliqué. Parce qu'ils sont dans un environnement compliqué où les théories économiques, et Madame Brunel l'a mentionné tout à l'heure, ne s'appliquent pas. La fameuse loi de King, c'est pour dire que l'offre s'adapte pas à la demande par le prix. Parce que dans l'agriculture, bah, l'offre, ça dépend de la climatologie, et la demande, mine de rien, l'homme se nourrit toujours de la même façon d'une année sur l'autre. Donc c'est le prix qui s'occupe de tout. Donc cette volatilité, elle est inhérente au secteur. Ça fait que 2500 ans que les hommes politiques réfléchissent à ça. Il y a plein de moyens, comme on l'a dit. L'un d'entre eux, c'est des subventions. Il y a des subventions très efficaces, comme la ministre Guinéenne l'a évoqué. Il y en a d'autres qui sont un peu, entre guillemets, eu des conséquences un peu difficiles. Vous prenez en Inde, typiquement, les engrais, l'électricité pour l'irrigation ont été subventionnés pendant très longtemps et rendaient les engrais et l'irrigation quasiment gratuites. La conséquence, la production indienne de céréales a explosé. Aujourd'hui, l'Inde est exportateur de céréales. Dans le même temps, il y a quelques zones indiennes où on a trop utilisé d'engrais parce qu'il n'y avait pas de prix lié à l'engrais et les terres ont été abîmées par une utilisation excessive d'engrais.
Et surtout, il reste 250 millions de personnes qui souffrent de la faim en Inde, parce que cette politique de soutien à l'agriculture ne s'est pas faite d'une façon suffisamment équitable pour que les petits des campagnes, les petits des villes, trouvent leur place dans cette filière. Alors, l'Inde dépense des fortunes avec la Food Corporation of India, et ça n'empêche pas les gens de souffrir de la faim. Les prix ne suffisent pas, il faut aussi travailler sur toutes les formes d'agriculture, c'est-à-dire on a besoin de grandes exploitations performantes, notamment en grandes cultures, parce que les grandes cultures, c'est 2/3 de l'alimentation mondiale. Mais pour conserver les régions, pour conserver les paysages, pour conserver les gens dans des régions plus difficiles, par exemple la moyenne montagne, par exemple des régions marquées par la sécheresse, eh bien, il faut agir de façon beaucoup plus fine. C'est ce que font les bonnes politiques agricoles. C'est qu'elles essaient de se préoccuper de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'agriculture, qui sont extrêmement variés, mais qu'on ne peut pas opposer entre eux.
Et vous pensez qu'on oublie souvent cette complémentarité de toutes les agricultures dans les politiques de subvention ?
Non, nous, les médias, etc., nous passons notre vie à essayer de trouver des solutions miracles dans l'alimentation en disant la vérité, c'est l'agroforesterie, c'est l'agriculture familiale, c'est le circuit court et non pas le circuit long. Eh bien, en réalité, l'agriculture, c'est un tissu d'activités complémentaires. L'élevage, et souvent quand on entend accuser l'élevage, c'est absolument honteux parce que l'élevage joue un rôle essentiel. L'élevage et l'agriculture, les circuits internationaux parce que certaines zones sont structurellement déficitaires, par exemple la Méditerranée, le Proche-Orient, mais aussi les circuits courts parce que bien ça permet souvent d'avoir un revenu garanti pour l'agriculteur s'il peut vendre à proximité dans des filières qui sont des filières souvent à haute valeur ajoutée. Et le bio comme le conventionnel, c'est-à-dire qu'il faut que les médias arrêtent de penser qu'il y a une mauvaise agriculture et que le gros agriculteur serait un pollueur ou un chasseur de primes. Dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie, vous avez des grandes exploitations et des petites exploitations. Elles ont toutes leur place pour préserver l'emploi, sauver les paysages et nourrir le monde.
Alors un nouvel exemple, l'Égypte qui occupe une place singulière sur la planète agricole. C'est le pays qui importe tous les ans environ 5 millions de tonnes de céréales. Prévu cette année, 2015 en particulier, alors qu'on pourrait penser que pour limiter ces importations, le gouvernement égyptien doit encourager par tous les moyens possibles la production. C'est le contraire qui se passe. L'État égyptien est en train de réduire ses subventions agricoles et les producteurs de coton, l'Égypte, vous le savez, produit un très beau coton, sont en train de perdre ses soutiens financiers. C'est un reportage éco d'ici, éco d'ailleurs, de François Humfer-Kataji au Caire.
Les fermiers et les commerçants ne pourront plus travailler avec ce système.
La culture bicentenaire et emblématique des fibres de coton pourrait disparaître faute de subventions dans un pays où le déficit budgétaire est un véritable gouffre. Mefré Albeltagi est le président de la Fédération des exportateurs de coton. Depuis quelques semaines, il court les institutions pour tenter de faire reculer le gouvernement depuis que le ministre de l'Agriculture a déclaré « Les agriculteurs doivent savoir produire sans compter sur l'aide de l'État ».
Ça ne va pas marcher parce que dans la plupart des pays du monde, comme aux États-Unis, en Inde ou au Pakistan, ils donnent des subventions aux cotonculteurs. Comment demander aux paysans qui ne reçoivent pas de subventions d'être compétitifs face à eux? Parce que, par exemple, si un Indien vend à tel prix, c'est parce qu'on lui finance l'autre moitié.
Désormais, le gouvernement souhaite que cultivateurs et commerçants égyptiens s'entendent en amont sur le niveau de production et sur les prix de vente avant de cultiver un fedan de coton. Impossible, selon Mefré Albeltagi.
Le gouvernement doit assurer un prix minimum, parce que les prix changent tous les jours. Tous les jours, les prix montent ou descendent. Il y a de vrais risques. Aucun fermier ne peut dire en mars ce que sera le prix en octobre.
Le coton n'était jusqu'à maintenant pas concerné par les politiques d'ajustement des années 90, tout comme le blé et le maïs. Mais le reste de l'agriculture égyptienne, fruits, agrumes, légumes, a déjà subi ce coup d'arrêt des subventions étatiques, laissant les petits exploitants à la merci des cours mondiaux, selon le professeur d'économie agricole Gamal Siam.
La plupart des agriculteurs sont très pauvres parce que le gouvernement ne les aide pas. Il n'y a pas de services agricoles, pas de formation. Tout ce que devrait faire le gouvernement n'existe pas à cause du manque de ressources disponibles. Il faut absolument améliorer la commercialisation des produits, renforcer les coopératives, les syndicats agricoles. C'est la seule façon d'améliorer leur rendement. Seuls, ils ne peuvent rien faire. Ils sont négligés aujourd'hui. Historiquement, l'agriculture a toujours été mis de côté dans toutes les politiques économiques.
Face aux faibles revenus issus de l'agriculture, les jeunes ruraux égyptiens partent en masse dans les villes, dans les pays du Golfe ou en Libye pour tenter leur chance dans le secteur du bâtiment.
C'était un reportage de François Humfer Kataji au Caire. Vous écoutez Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Nous parlons subventions agricoles avec deux invités, la géographe Sylvie Brunel et l'analyste Didier Nedelec. Didier Nedelec, vous en pensez quoi de cette politique agricole égyptienne?
L'Égypte est un pays fascinant quand on parle d'agriculture. Ça a été le premier pays exportateur de céréales dans le monde il y a 2500 ans en arrière, avec la politique des pharaons. Aujourd'hui, la problématique égyptienne, elle est simple. Il y a peu de terre en Égypte. Fondamentalement, la terre agricole, c'est autour du Nil. L'homme s'y est installé, bien évidemment. Donc déjà, vous avez une première problématique, c'est que les terres agricoles disparaissent les unes après les autres sous les villes. Et ça, c'est un grand point, la disparition des terres agricoles au niveau mondial, comme d'habitude les meilleures, qui sont construites et donc la production diminue. Les Égyptiens ont fait un choix sous Nasser de dédier leurs ressources financières, qui sont pas énormes, au subventionnement du pain auprès des consommateurs. Ce qui fondamentalement est un peu l'équivalent de nos politiques sociales françaises. Maintenant, c'était par l'intermédiaire d'un pain qui vaut quasiment rien. C'est 5 piastres pour des galettes de pain qui sont données chaque jour. Ce qui a une très grande subvention, pas agricole, c'est une subvention du pain en Égypte. Qui, comme toutes les subventions, a un léger problème, c'est qu'on utilise le pain même pour nourrir les animaux tellement il est peu cher. Aujourd'hui, ce système est en cours de réforme, c'est très compliqué, ça mobilise des moyens énormes au niveau de l'Égypte. Vous comprenez bien que faire changer le prix de l'alimentation dans un pays qui est en ébullition crée beaucoup de difficultés au niveau local, pour justement réorienter ces subventions vers la création d'un environnement propice au développement de l'agriculture de subsistance de la population. Alors le coton risque d'avoir quelques problèmes dans cette évolution. Maintenant, ça prendra beaucoup de temps, comme toutes les évolutions politiques. Maintenant, il y a un point très intéressant dans ce dossier, qui est que, quand vous regardez les études de l'OMS sur le développement démographique dans les 20 ou 30 ans qui viennent, et Sylvie Brunel a déjà évoqué notre besoin d'augmenter très significativement les productions agricoles, cette grande zone Maghreb, Moyen-Orient, Afrique, importera dans le futur en ayant développé d'une façon massive son agriculture. Et quand on voit les derniers événements dans la zone, c'est pas gagné. Va importer 100 à 150 millions de tonnes de céréales et en particulier de blé, parce que c'est la céréale qu'ils consomment. La question que je pose, c'est d'où viendra cette demande locale pour nourrir les populations?
Vous voulez dire, pas la demande, d'où viendra la fourniture?
La fourniture de cette demande. Et aujourd'hui, je ne suis pas géographe comme Madame Brunel, j'ai un peu d'expérience sur les marchés, il est évident pour nous tous que la zone principale de fourniture sera la Grande Europe, de l'Ouest et de l'Est, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Quand on poursuit le développement et qu'on regarde les capacités de développement, il y a une zone qui va avoir une immense responsabilité dans ce dossier, c'est l'Europe. Où il va falloir faire un choix politique qui aujourd'hui n'est pas tranché sur est-ce que nous contribuons à la sécurité alimentaire de nos voisins, c'est-à-dire la rive sud de la Méditerranée, ou est-ce que nous n'y contribuons pas ? Aujourd'hui, quand on regarde les politiques agricoles européennes, nous avons atteint à peu près l'autosuffisante, à peu près, quand on regarde en grands chiffres, l'Europe importe et exporte à peu près la même quantité.
Oui, mais c'est la première importatrice de nourriture au monde.
Nous sommes d'accord. Et dans le même temps, nous avons des politiques qui découragent les agriculteurs de produire.
Nous avons des politiques malthusiennes. Nous n'avons pas compris aujourd'hui que notre richesse, notre formidable richesse, c'est ce potentiel que nous sommes en train de saccager parce que nous décourageons nos agriculteurs. C'est-à-dire que ce que nous avons critiqué en Afrique pendant 30 ans en disant « Mais enfin, comment l'Afrique ne peut-elle pas comprendre qu'elle a tellement de chance et qui fait qu'aujourd'hui les terres africaines sont accaparées par des gens qui au contraire les valorisent ?» Eh bien la France, d'une certaine façon, est en train de le faire, c'est-à-dire qu'elle se prive de son potentiel. Et nous n'avons plus de leçons à donner au reste du monde parce que aujourd'hui, l'Afrique, vous avez parlé de la Guinée, vous avez parlé de l'Égypte, le destin alimentaire des pays africains leur appartient en grande partie. Là, leurs villes sont encore très largement nourries par l'extérieur, mais partout où des filières se mettent en place, non seulement, attention, ça c'est très important, non seulement ces pays émergent sur le plan économique, mais ils deviennent des importateurs nets de nourriture parce que leur pouvoir d'achat augmente. Et donc, de ce fait, nous avons un jeu à somme positive. Ce jeu à somme positive, c'est de dire qu'en Europe, on produira pas de thé, de café, de cacao. Nous avons des besoins structurels en denrées tropicales. Mais qu'un certain nombre de pays africains ont besoin de s'enrichir et qu'ils nous achèteront toujours nos fromages, nos vins et tout ce que nous produisons de bon. Et cet échange passe partout. À l'échelle régionale, pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle régionale, par la mise en place de politiques agricoles cohérentes qui considèrent que l'agriculture est un secteur stratégique. Sauver ces paysans, c'est de la stratégie.
Alors, Sylvie Brunel, depuis longtemps, on parle malgré tout des échanges entre les pays du Nord et les pays du Sud comme des échanges extrêmement déséquilibrés. Pendant très longtemps, par exemple, les Brésiliens et les Africains se sont battus côte à côte contre les subventions dont bénéficiaient les producteurs américains de coton. On reparle du coton. Aujourd'hui, rien n'est réglé, comme le dit le secrétaire permanent de l'Association des producteurs de coton africain, Youssouf Djimé Sidibé, au micro RFI de Delphine Bousquet, interview réalisée cette semaine à Cotonou, où se déroulait la 20e session du comité d'orientation et de suivi du partenariat UE-Afrique sur le coton.
L'association des producteurs de coton africains a toujours combattu les subventions à l'exportation, ce que les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne accordent à leurs producteurs. C'est-à-dire qu'en ce moment, ça fausse les règles du jeu. Et c'est pour cela d'ailleurs que depuis 2005, des actions de plaidoyer et de lobbying ont été menées avec bien sûr l'appui de nos ministres au niveau de l'OMC. Et jusque-là, le combat continue, il n'est pas gagné. Puisque jusque-là, ces pays n'ont pas levé ces subventions.
Comment vous expliquez que depuis 2005, ça n'ait pas changé, que l'OMC n'ait pas pris en considération vos plaintes?
C'est le rapport de force. Depuis le jour où les pays du C4, c'est-à-dire le Mali, le Bénin, le Tchad, le Burkina, qui ont été les premiers pays à pouvoir aborder ce problème. Depuis ces jours, si ces subventions avaient été levées, on n'en serait pas là où nous en sommes. Puisque nous, ça entrave notre activité, ça rend moins compétitive nos filières, c'est nous qui nous appauvrisons.
Vous êtes contre les subventions à l'exportation, mais vous n'êtes pas contre les aides à la production.
Non, point du tout, on n'est pas contre les aides à la production, c'est-à-dire par exemple la subvention des intrants, des engrais qu'on apporte aux champs, on n'est pas contre ça. Mais ce qui est vraiment important, c'est surtout les subventions à l'exportation, qui est carrément l'antinomie des règles du commerce international.
Vous en pensez quoi de ce discours des cotonniers africains?
Je respecte leur combat, d'autant que l'OMC a condamné les États-Unis pour ces subventions. Mais vous savez, il suffit pas de condamner. Quand vous condamnez la première puissance mondiale, les mesures de rétorsion sont très limitées. En revanche, ce que je note, c'est que le secteur cotonnier africain était un secteur qui se portait très bien quand il y avait des entreprises solides. Il y avait la compagnie française de diffusion des textiles. Ensuite, il y avait la compagnie malienne de diffusion des textiles. Et il y avait des sociétés qui étaient extrêmement solides. Ces sociétés sont devenues des machines à employer, elles ont été supprimées. Des sociétés publiques, parapubliques, soutenues avec des partenariats avec des partenariats avec le Nord. Pour qu'un agriculteur soit solide, il faut qu'il soit protégé, il faut qu'il bénéficie de filières organisées. Alors bien sûr, ces agriculteurs africains aujourd'hui sont démunis, mais il faut qu'ils se tournent aussi vers leurs organisations régionales qui mettent en place des marchés cotonniers. Pourquoi on est obligé d'exporter le coton africain? Pourquoi on ne peut pas le fabriquer sur place? J'ai inauguré avec Dagris à Velingara un centre qui était aux normes internationales.
Velingara, c'est
au Sénégal, qui était aux normes internationales. L'Afrique a tout à fait les moyens de produire du coton pour les Africains, de transformer ce coton sur place. Et à ce moment-là, la question des subventions aux États-Unis ou dans d'autres pays ne se produira pas. Il faut que les gouvernements africains comprennent que les producteurs africains ont un marché gigantesque sur place. Il y a 1 milliard d'Africains aujourd'hui, il y en aura 2 milliards en 2050. Ça veut dire que la transformation des matières premières sur place, c'est la solution. Mais ça demande des politiques industrielles et agricoles volontaristes.
Didier Nédélec, ça fait 10 ans qu'on entend ce discours des producteurs de coton africains disant on va disparaître à cause des subventions européennes ou américaines. Et pourtant, 10 ans après... Ils sont toujours là, ils continuent à exporter et à produire.
Oui, justement, je crois qu'il faut arrêter avec les messages un tout petit peu anciens, lénifiants, etc. Vous prenez la production de coton du Burkina Faso, je vous cite ça de mémoire, j'ai pas les chiffres, mais je crois qu'elle a été multipliée par 4 dans les 5 dernières années. Grâce en particulier à l'introduction de nouvelles technologies semencières.
Coton OGM, puisqu'il faut dire le mot.
Moi, je voudrais déjà arrêter avec ce message sur l'Afrique. L'agriculture africaine est en train de se développer à une vitesse faramineuse. Vous prenez la zone sahélienne dans les 10 dernières années, a doublé sa production. C'est passé de 11 à 22 millions de tonnes. Vous prenez...
Est-ce que ça s'explique par une intervention croissante des États locaux?
Ça s'explique par une structuration des agricultures locales avec tous les moyens disponibles, inclus les États. Tous les moyens disponibles. Vous prenez le développement de la coopérative face au Djigui au Mali. Vous prenez le développement d'une autre organisation de producteurs au Burkina qui s'appelle l'UGCCPA, je crois. Il y a un travail énorme qui est fait. On est passé du développement de l'agriculteur au développement des filières et des infrastructures autour des agriculteurs, avec ou sans le support des États, de temps en temps compensé par des organisations internationales, par des fondations, par des choses équivalentes. C'est en marche. Donc il faut arrêter de faire du misérabilisme. Maintenant, ça suffira pas. Le monde est fait comme ça, on devra s'entraider. Et c'est pour ça que la meilleure zone agricole du monde, il faut pas l'oublier, c'est un triangle qui part de Londres, qui passe par Paris, qui va à Berlin. Vous faites un cercle autour de tout ça de 300-400 kilomètres. Vous avez la seule zone au monde où vous avez les meilleurs agriculteurs, les meilleures terres, la meilleure climatologie.
Je voudrais quand même revenir à l'Afrique. Ce continent de 22,5 millions de kilomètres carrés, on sait qu'il va être touché par le changement climatique. Hein. On sait qu'il va être lourdement impacté. Bien sûr, l'Europe, les États-Unis ont l'arme agricole, ont l'arme alimentaire. Mais l'Afrique, si elle ne l'a pas, c'est pas parce qu'elle a vécu, elle a subi l'injustice du monde. C'est parce qu'elle a délibérément sacrifié ses agriculteurs.
Alors, et comme... Justement, Sylvie Brunel, de nombreux pays africains ont ouvert leurs portes à des investisseurs étrangers.
Exactement.
Et de grandes exploitations apparaissent. Est-ce que c'est un moyen pour les États d'échapper au soutien financier à la petite agriculture?
Vous savez, ces investisseurs agricoles, pour qu'ils mettent en place des grandes exploitations, il faut quand même qu'ils aient un contexte favorable sur le plan juridique, sur le plan foncier dont parlait tout à l'heure Didier. Il faut qu'ils soient soutenus. Donc, ce n'est pas parce que on va créer de grandes exploitations qu'on n'aura pas besoin de soutenir la petite agriculture familiale paysanne pour des questions d'emploi et pour des questions sociales. Dans les terres qui sont mises en valeur, il faut absolument pas qu'il y ait d'éviction des communautés paysannes. Il faut que les cahiers des charges fassent que ces communautés paysannes trouvent leur place, qu'elles puissent être insérées. Donc c'est un problème qui se pose état par état. Certains l'ont bien compris. Certains, même si leur potentiel agricole au départ n'était pas forcément le meilleur, eh bien ont compris que cette petite agriculture familiale paysanne, c'était le socle sur lequel ils allaient fonder l'émergence. À côté de ça, il faut des technologies étrangères, il faut des filières étrangères. Et quand les Indiens, les Brésiliens, les Chinois vont investir en Afrique, si les cahiers des charges sont bien menés, ça peut être un partenariat gagnant-gagnant.
Didier Nédélec, vous disiez tout à l'heure que la production agricole en Afrique augmentait de manière quasi vertigineuse. Mais est-ce que le niveau de vie des populations paysannes africaines augmente, elles aussi? Parce qu'on dit souvent que les plus misérables, les plus pauvres sur le continent, ce sont les paysans. Sylvie Brunel, vous...
Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans le volant de pauvreté et de populations qui souffrent de la faim en Afrique, vous avez beaucoup de petits agriculteurs dans des campagnes qui sont délaissés, qui sont oubliés, qui sont dans des zones périphériques. Donc, Donc c'est vrai. Mais le message qui est favorable et positif, c'est chaque fois que ces campagnes, on s'en occupe. Et tout à l'heure, on parlait de la diversité des intervenants, c'est-à-dire les États, les fondations, les ONG, les organisations de producteurs.
Tous ceux qui injectent du soutien financier.
De la modernisation, des techniques, des semences, des intrants. Chaque fois qu'on s'en occupe, le message qui est formidable, c'est qu'en l'espace de 2 ans, vous pouvez changer la donne. Changer la donne et permettre à ces gens de vivre mieux et d'avoir confiance en l'avenir et de sécuriser leur propriété. Donc ça veut dire que tout est possible encore en Afrique et qu'il faut arrêter d'accuser l'extérieur. Parce que aujourd'hui, chacun dans le monde a besoin de se retrousser les manches au service de l'agriculture.
Juste pour compléter ce que vient de dire Sylvie, je crois que la meilleure subvention agricole, c'est de construire des routes.
Oui. Pour commercialiser.
Et oui.
Pour avoir accès, alors commercialiser, mais également pour que les produits, dont on a besoin pour produire l'agriculture arrive à vous. La meilleure subvention agricole, c'est construire une route. Est-ce que c'est une subvention agricole, monsieur ? Non, c'est la structuration du pays.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, Sylvie Brunel. Nous arrivons au terme de cette émission qui était donc consacrée à l'impact des subventions agricoles sur l'équilibre agricole mondial. Merci à vous, Sylvie Brunel, d'y avoir participé. Merci, Didier Nédélec, d'avoir été là. Cette émission était réalisée par Vincent Porra d'Allongeville. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI.